01 45 24 7000 avec d'abord Frédéric qui nous appelle d'Alençon dans l'Orne. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser une question à Monsieur Le Foll. Bonjour Monsieur Le Foll.
Bonjour.
Je suis donc déjà Cédric d'Alençon. Je suis installé depuis 3 ans en jeune agriculteur en agriculture biologique. Et je voulais savoir par rapport à l'intervention que vous avez fait la semaine dernière où vous disiez que vous étiez fier de ce que vous avez fait. Je voulais savoir comment vous pouviez être fier de ce que vous avez fait pour l'agriculture biologique, sachant que vous n'avez toujours pas réglé les soldes de 2015, vous n'avez toujours pas payé les soldes de 2016, que vous nous devez encore plein d'argent sur les aides. Les dossiers des MAE sont même pas instruits.
Je crois que là, vous allez peut-être... J'ai bien compris la question, j'ai bien compris votre intention. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'agriculture biologique? Quand je suis arrivé dans le ministère de l'Agriculture, le budget pour consacrer à l'agriculture biologique était de 90 millions d'euros. Aujourd'hui, il est arrivé à plus de 160 millions d'euros. L'agriculture biologique était à peine plus d'un million d'hectares. On est passé à 1 800 000 hectares, avec un objectif qui était le doublement de la surface en agriculture biologique. Vous avez en même temps obtenu des ATR, des avances, parce que sur la question des aides, j'en suis le premier désolé, après un apurement européen, on a été obligé de revoir l'ensemble du parcellaire à l'échelle du pays pour recalculer l'ensemble des surfaces, ce qui nous a fait prendre beaucoup de retard. Et donc la première des choses, ça a été de verser les aides du premier pilier de la PAC, que vous touchez d'ailleurs, et ensuite de verser les aides du deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire les MAE. À chaque fois, j'ai fait en sorte de donner avec des avances payées et sur des emprunts nationaux les moyens de poursuivre cet engagement pour l'agriculture biologique. Alors après, vous pouvez critiquer. Vous pouvez avoir cette manière de présenter les choses qui est extrêmement négative. Je la respecte. Mais moi, je vous dis que je suis fier de ce que j'ai fait pour l'agroécologie, le grand enjeu de l'ensemble de l'agriculture française. J'ai fait pour l'agriculture biologique, j'ai connu des problèmes, j'ai essayé de les surmonter. Tout n'a pas été résolu, mais moi je ne peux pas laisser dire ce matin que je n'aurais rien fait, puisque la preuve, là encore, elle sera dans les chiffres. L'agriculture biologique a vu ses surfaces doubler, a vu son chiffre d'affaires augmenter de près de 30%, a vu le développement en particulier avec les plans alimentaires territoriaux de l'approvisionnement local dans toutes les collectivités locales. J'ai donné une place à l'agriculture biologique. Et à chaque fois que je suis allé au niveau de l'agence bio, au niveau de l'ensemble des professionnels de l'agriculture biologique, à qui j'ai permis aussi, avec 4 millions d'euros supplémentaires pour l'agence bio, d'organiser l'agriculture biologique, pour faire en sorte que, non seulement on augmente la production, mais qu'on organise cette production de telle manière qu'elle continue à progresser. Alors après, je vous l'ai dit, vous pouvez critiquer. Ça fait partie du jeu. Mais vous ne pouvez pas contester ce que j'ai fait.
Les retards de paiement sur les subventions.
Les retards de paiement sur les subventions. Les retards de paiement sont liés, je vous l'ai dit, à un gros problème de retard complet qu'on a eu, puisqu'on a eu un apurement européen. C'est-à-dire que l'Europe est revenue contester les aides qui avaient été versées entre 2008 et 2012. Ce qui nous a obligés, 3 milliards de sanctions, obligés à refaire l'ensemble des photos sur les surfaces. Voilà pourquoi on a eu du retard. Mais jamais j'ai remis en cause l'ambition qui était la mienne pour l'agriculture biologique. Voilà, monsieur.
Xavier nous appelle du Finistère. Bonjour, Xavier.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Donc, c'est la même remarque que je fais par rapport à...
Oh ben je vois qu'il y a eu une concertation.
Non, oui, on est voisins, sûrement. Je suis du Finistère Nord et je suis producteur laitier. Et donc, je me demandais comment monsieur Le Foll avait pu mener ses deux jobs, porte-parole et ministre. Je pensais que ministre, ça aurait suffi. On voit les problèmes qu'il y a. Qui a été évoqué, c'est vrai, et c'est pour les primes de la PAC, mais c'est aussi pour tout ce qui est dossier de subvention. Ouais. On le sait très bien, dans les bureaux, ils sont débordés. Je ne sais pas quels moyens ont été mis, mais ils ne sont pas suffisants. Et après, je pense que l'agriculture va assez mal pour s'y consacrer un certain temps.
Écoutez,
je
monsieur...
Je veux bien avoir un deuxième job, ouais. Mais je n'ai pas le temps.
Oui, mais monsieur, je vais vous dire une chose. On verra la suite qui sera donnée... Et avec la nomination du gouvernement, d'après ce que j'ai compris, Emmanuel Macron mettra un ministre à plein temps. On verra si le seul fait d'être soi-disant à plein temps, parce que le travail d'un ministre, ça commence très tôt le matin et ça finit très tard le soir. Le porte-parole, c'était le mercredi, préparation du Conseil des ministres et prise de parole ensuite. J'ai été à plein temps. Personne ne me reproche, par exemple, monsieur, le fait que j'ai été ministre de la Forêt en même temps. Personne n'en parle. C'est quand même bizarre. Ça prend du temps aussi. J'ai mis toute mon énergie, tout mon temps à traiter des problèmes.
Vous voulez dire que le porte-parole-là, c'est une demi-journée par semaine, c'est ça ?
C'était une demi-journée par semaine, plus des interviews. Et à chaque fois que j'étais interviewé, même avant que je sois porte-parole d'ailleurs, comme j'étais un proche du président, c'était souvent pour me parler d'autre chose que des questions agricoles. Mais ça, les agriculteurs, vous en jugerez vous-même ensuite. Le jour où il y aura un ministre uniquement ministre de l'agriculture, j'entends déjà ceux qui diront « oui, mais il nous faut un ministre de poids politique pour gérer l'agriculture ». Donc, cette critique, monsieur, que vous me faites, qui a été faite par la FNSEA, était la plus faible qui soit. Parce que au fond, où on a des divergences sur les questions agricoles, mais d'aller chercher cet argument qui a consisté pendant des mois à dire parce que j'étais porte-parole, je m'occupais pas d'agriculture. Moi, je travaillais beaucoup, longtemps et suffisamment rapidement pour essayer de trouver toutes les solutions. Quand il s'agit du lait, monsieur, que vous évoquez, la fin des quotas laitiers en 2008, c'est pas moi qui l'ai voté, c'est pas moi qui l'ai mis en œuvre. Le fait que la France produise entre 25 et 26 milliards de litres de lait et que des pays comme l'Allemagne en produisent 35 à 37 milliards de litres de lait, qu'à chaque variation de 1 ou 2% de la production laitière, c'est plus de 500 millions de litres de lait à qui il faut trouver des débouchés, ça ne se règle pas. Pas simplement parce que j'aurais été porte-parole, c'est parce qu'il fallait aussi, au niveau européen, obtenir pour la première fois depuis la fin des quotas laitiers, la maîtrise de la production laitière. Alors après, toutes les critiques sont valables. Toutes les positions sont valables. Mais faut-il encore être juste dans la critique, monsieur?
Ministre de poids, avez-vous dit, Stéphane Le Foll, vous voulez dire que votre proximité avec le président de la République, avec François Hollande, a servi
Elle a servi, en particulier sur le budget de l'agriculture. Parce qu'au niveau européen, le fait d'avoir défendu un budget qui était pratiquement l'équivalent de ce qu'il était avant, alors que tout, et en particulier l'Allemagne, pesait pour que le budget européen baisse, et en particulier celui de la politique agricole, oui, le fait d'avoir eu François Hollande comme président de la République et un ministre qui connaissait un peu l'Europe, ça a permis de défendre un budget à la hauteur où il a été. Alors après, je vous le dis, on peut toujours critiquer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Moi je connais un adage, la critique est facile, l'art est difficile.
Pierre nous appelle de Paris, bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour Stéphane Le Foll. Moi, j'avais une question à propos des élections législatives.
Je vous en prie, allez-y.
J'ai toujours voté socialiste. Et j'avoue que là, je suis un peu perplexe, comme beaucoup de gens de gauche, j'imagine, face à la situation actuelle, où on a globalement des candidats socialistes qui, pour les uns, annoncent qu'ils sont d'ores et déjà dans la majorité, type Malek Bouti. Pour d'autres qui veulent construire autour de la majorité présidentielle, et j'ai entendu effectivement le discours de Stéphane Le Foll, et d'autres qui, d'ores et déjà sur le terrain, font campagne en disant « nous, on sera dans l'opposition, on a vocation à travailler et à se rapprocher avec les insoumis ou d'autres ». Et je ne vois pas comment les électeurs vont s'y retrouver. Je me dis simplement qu'à défaut d'être en marche, il faudrait peut-être un parti socialiste en ordre de marche, et nous donner un guide, quoi, parce que là, on est un peu... Enfin, quand je dis guide, c'est pas une personne, hein, juste un kit. Un kit de...
Ouais, vous avez fait peur, là. Ils ont tous sursauté dans le bureau, là.
On a juste besoin d'une boussole, là.
Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis sur la ligne que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que je ne crois pas au rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon est dans une forme de radicalité. D'ailleurs, j'ai entendu... le président, je crois, du parti de gauche parlait comme il a parlé de François Hollande, c'est-à-dire une forme de radicalité. Aujourd'hui, les Français ont envie que ça réussisse, j'en suis à peu près convaincu, c'est ce que je perçois de ce qui s'est passé en particulier hier, et on ne peut pas ne pas entendre ce message. Et en même temps, on le sait, en fonction de ce qui sera décidé par le président de la République, de la constitution de son gouvernement, je pense qu'on a besoin de socialistes qui soient constructifs. Parce qu'on a besoin de construire et d'arrêter des débats qui stérilisent la capacité qu'on a à avancer. Et en même temps, qu'on soit vigilant par rapport à ce que nous avons fait, à l'identité qui est la nôtre sur la justice sociale. Et c'est cette ligne-là qui doit être la ligne, me semble-t-il, du Parti Socialiste. Elle avait été d'ailleurs à peu près adoptée à une majorité large au niveau des instances du Parti Socialiste, je mets tout ça entre guillemets, et vous avez parfaitement décrit les positions de certains. Mais moi je dis à ceux qui considèrent qu'il faudrait déjà être dehors tout en restant dedans, à ceux qui sont déjà partis, bien pour que ceux qui veulent partir partent, que ceux qui voudraient être encore dedans mais en ayant un pied dehors, qu'ils fassent un choix. et qu'à partir de là, on ait de la cohérence. Moi, je défends la cohérence. Et en politique, on ne peut être entendu que si on est cohérent.
Thomas Legrand.
En matière de cohérence et de boussole, puisque c'est la question de notre auditeur, il y a un cas d'école qui paraît d'école comme ça, mais qui va se présenter à vous et à tous les électeurs socialistes dans quelques semaines. Dans le cas où il y a au deuxième tour un candidat de droite et un candidat insoumis, que doit faire, avec votre boussole, l'électeur socialiste ? Est-ce que... il faut le faire à l'ancienne, c'est-à-dire rassemblement à gauche, désistement. Il n'y a pas besoin de désistement s'il n'y a pas de candidat. Je vous rappelle qu'il faut être qualifié au second tour, il faut avoir fait plus de 12,5%, c'est-à-dire un peu plus de 20%.
Oui, d'accord. Donc il faut déjà avoir réussi à passer toutes ces étapes, mais il y a plein d'autres cas.
Mais si on n'a pas passé ces étapes, il y aura beaucoup de socialistes qui ne le passeront pas, puisque...
Attendez. Moi, je ne vais pas commencer à anticiper des deuxièmes tours, alors qu'on n'a même pas encore commencé.
Ça existera. Vous parlez de boussole.
Et bien alors, et si c'est un débat entre un candidat En Marche ou un candidat PS. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas posé cette question?
Je la poserai après.
Ah ben non, donc voilà, j'attends de voir. Mais moi, la première, je n'en sais strictement rien aujourd'hui. J'ai dit ce que je pensais de ce que sont les positions ou les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Il les a faites, il les a réitérées, il est parti pour être candidat à Marseille contre Patrick Mennucci. Je sais ce que c'est comme gauche, radicale. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est pas la gauche que moi j'ai incarnée et portée.
Vous ne voteriez
ensuite, j'ai vu et j'ai bien compris, de la même manière que Jean-Luc Mélenchon, ne veut aucun accord avec personne. Et qu'il a dit qu'il voulait remplacer le Parti Socialiste, c'est ça qu'il a dit.
Oui.
Je n'ai rien contre, je veux le dégager. Encore une fois, le dégagisme, cette manière de faire de la politique qui consiste à faire du passé une table rase. Mais moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Alors après, les questions qui seront posées, on verra. Aujourd'hui, on a une identité à défendre, une vigilance à affirmer et une cohérence à trouver dans un projet et une perspective qui consiste à faire réussir ce quinquennat. Voilà la ligne, voilà la stratégie. Le reste, on aura un peu de temps pour en discuter et pour voir comment tout ça va s'organiser.
On ne voit pas bien comment le parti socialiste pourrait maintenir son unité, Stéphane Le Foll, avec ce
que
vous
dites. Mais je l'ai dit, j'ai parfaitement été clair. J'ai bien compris que certains étaient déjà partis. Bon, ils sont partis. Il faut qu'ils en assument la totalité des conséquences. D'autres.
Et pour ce qui est de l'aile gauche du Parti Socialiste,
du Parti Socialiste, je l'ai parfaitement entendu, c'est on reste dedans, mais on crée des mouvements à côté. Mais il y a besoin quand même que chacun arrête. J'ai bien entendu d'ailleurs les petits mots qui
vous ne créez pas de mouvement, vous.
Non, je ne crée pas de mouvement. Il y avait, dans les propositions qui étaient faites, il faut dépasser le Parti Socialiste. Je voudrais d'abord que chacun évite. Non. Prennent comme principe de dépasser ses propres perceptions et son propre ego. Ce serait déjà un progrès. Puis ensuite, il y a une cohérence politique à trouver. J'ai indiqué ce que je pensais. Et puis, il y a un projet sur lequel aussi il faut qu'on travaille et qu'on renouvelle nos idées. Je pense en particulier que la grande question qui est posée sur les territoires de manière générale, sur la fracture qui existe, est posée au travers de la question du patrimoine. Qu'est-ce qui reste à ceux qui travaillent, à ceux qui ont des carrières, à ceux qui se sentent toujours déclassés? Et là, il y a une stratégie à mettre en place. C'est pourquoi, au niveau du Parti Socialiste, on propose en particulier cette dotation pour les jeunes, pour leur permettre d'avoir un capital de départ.
Deux mots encore, Stéphane Le Foll. D'abord sur l'état d'esprit de François Hollande, avec qui donc vous avez partagé un couscous hier midi.
J'ai partagé un couscous. L'état d'esprit, bon, c'était plutôt de se retrouver après toutes ces années. Et puis, convivial. L'état d'esprit, moi, je peux pas livrer comme ça l'état d'esprit de François Hollande. Je vois bien que c'est quand même pas, anodin tout ça. Et donc, il quitte la présidence de la République. Il sait que ça va être une page complètement nouvelle qui va s'écrire aujourd'hui pour lui. Et donc, j'ai bien perçu ce qu'était aussi à la fois son émotion et ses doutes sur l'avenir. Bon, une fois que j'ai dit ça, après, je sais aussi qu'il sera en capacité lui-même de trouver des ressources, des objectifs. Donc moi, je laisserai François Hollande d'abord prendre un peu de recul et de vacances. Et puis, pour ce qui me concerne, eh bien, vous m'avez invité ce matin, c'était aussi pour parler politique, puis, mais concrètement. Et aujourd'hui, eh bien, moi, j'assumerai ce qu'est ma responsabilité. Voilà, et puis François Hollande, je l'ai vu hier, je lui dis toujours à la fois mon amitié, hein, parce que c'est une vérité, et moi je n'ai pas changé d'avis, et la fidélité qui a été la mienne, et en même temps maintenant, la politique nécessite que on se tourne de manière résolue vers l'avenir, et qu'on travaille pour préparer l'avenir.
François Hollande, qui n'a donc pas fait ses adieux à la politique, vous nous le confirmez.
Mais je n'ai rien dit d'autre que ce que je viens de vous dire.
On fait une pause, Stéphane Le Foll, avant de retrouver Sophie Aram.